De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Lucie Lafont, auxiliaire de puériculture du service réanimation pédiatrique de l'hôpital de Purpan.
Hôpital des enfants de Purpan.
Bon, on va parler un petit peu politique du soin, parce que travailler en réanimation, c'est accompagner la douleur, parfois la fin de vie, avec rigueur, respect et bienveillance. Donc oui, dans votre service, vous soignez, mais vous faites bien plus que ça.
Notre rôle essentiel, c'est l'accompagnement de l'enfant, c'est la gestion de son confort, de son bien-être. Donc ça va s'organiser par tout ce qui est toilette, installation, ce qu'on appelle nursing, donc c'est-à-dire des massages pour éviter, pour la prévention des escarres et le confort de l'enfant. Et après, il y a l'observation aussi. Cliniquement, tout ce qu'on va pouvoir détecter, donc les changements de l'état clinique de l'enfant, on est essentiellement sur l'observation de ces patients-là. Ça va être la coloration cutanée, les apparitions cutanées de plaques, de boutons. Ça peut être tout ce qui est changement clinique, ventilation par exemple, les défaillances respiratoire, la douleur aussi. Nous, on est dans bien l'observation sûr. Pour observer un patient, savoir reconnaître un patient qui est douloureux, inconfortable.
D'ailleurs,
notre rôle, c'est tout ça.
Il y avait une mythologie autour de...
L'enfant n'a pas mal.
Ouais, voilà.
Ça ne fait pas très longtemps, ça fait depuis le XXe siècle qu'on a conscientisé le fait que les enfants pouvaient avoir mal, même sans l'exprimer. C'est pour ça qu'on est dans quelque chose où on doit prendre le temps d'observer un enfant. Ce n'est pas en passant 3 minutes dans la chambre. C'est d'ailleurs souvent le cas quand on veut exprimer, par exemple, à nos médecins qu'un patient est douloureux et qu'il va rentrer dans la chambre et qu'il va dire « Ah, mais il va très bien !» et qu'il va ressortir de la chambre. Ça, c'est peut-être les 2 minutes où il a été calme et tout le long d'avant, il a été très agité.
C'est-à-dire,
on ne peut pas quantifier, c'est exactement ça.
Tu ne peux pas dire « Je suis resté une demi-heure de plus pour bien vérifier. »
Un patient qui est, par exemple, qui est intubé, donc sous respirateur, va être sédaté, endormi, mais parfois il ne va pas être correctement sédaté et va être très agité sous son intubation. Donc ça veut dire que c'est un patient où il faut le contenir. Par exemple, un adolescent de 16 ans qui se réveille sous son respirateur, il ne faut surtout pas qu'il s'extube, parce que sinon il faut le réintuber en urgence et c'est très grave. Ça va être donc un patient qu'on va devoir scotcher entre guillemets au lit, et le temps qu'on appelle à l'aide pour que nos médecins viennent de nous aider et augmentent les sédations pour que l'enfant se rendorme. C'est pour ça qu'il y a des fois où on va rentrer dans une chambre mais on sait pas du tout quand est-ce qu'on va en sortir, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Et après, nous, on a aussi donc un rôle important. On va aller suppléer le médecin ou l'infirmière dans tout soin confondu. Ça peut être la pose de perfusion. Il faut être auprès de l'enfant pour contenir l'enfant, le rassurer, l'apaiser pendant ce soin-là. Ça peut être le retrait de dispositifs médicaux, par exemple les drains, les pacemakers externes, tout ça. Il faut aider le médecin. Il faut soit le servir en stérile, donc ouvrir le matériel, l'habiller. Un médecin qui s'habille en stérile, c'est à nous de lui nouer sa blouse. C'est exactement comme on peut voir dans les films ou dans les blocs opératoires. Il enfile ses gants, il faut l'ouvrir, il faut lui mettre sa blouse, lui nouer, et après il a le droit de plus rien toucher. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons toutes ces petites mains. Il faut répondre au téléphone qui sonne, et il faut répondre. Il manque un matériel, c'est nous qui allons le chercher. Et les auxiliaires de puériculture, on aide à faire tout ça.
Dimanche, votre série culte revient.
Urgence, bonjour.
Comme c'est bon de retrouver ces visages familiers.
Carter ! Il est quoi, lui, débutant ?
Ici, c'est un hôpital universitaire.
Soulevez !
Vous vous êtes fait à ça ?
Fait à quoi ?
À ne dormir que 3 heures par nuit.
Bienvenue à bord.
Pour gérer la crise, rien de tel qu'une équipe de choc.
Et après, on a aussi énormément un rôle qui est, on va dire, annexe. Donc on va aller... énormément gérer le téléphone qui sonne, l'interphone. On a un interphone pour que les familles puissent rentrer, parce qu'elles n'ont pas le droit de rentrer qu'on soit au courant. Donc elles sont obligées de sonner l'interphone, et c'est nous qui décidons si le patient, si la famille peut rentrer ou pas. C'est aussi pour veiller qu'il n'y ait que la famille qui rentre. Donc ça veut dire que chaque parent qui rentre sonne à l'interphone. Donc on ouvre manuellement sur notre téléphone, on répond au téléphone pour donner des nouvelles. On est obligé de répondre quand les hôpitaux, des fois, veulent transférer un patient. Ça passe par le standard de notre réa, on doit le transférer au médecin de garde pour que ce soit lui qui régule ce patient qui potentiellement peut arriver. On a une auxiliaire de puériculture qui gère l'accueil, mais elle est là, donc comme je disais, de 8h à 15h45, dès qu'elle s'en va, c'est l'équipe entière qui doit gérer tout ça, donc toutes les entrées administratives, que ce soit physique en remplissant un cahier ou administrative, logiciel, on doit la rentrer manuellement dans notre logiciel pour pouvoir faire les prescriptions. Okay. Ça prend énormément de temps, toutes ces choses-là, c'est des temps qui sont pas auprès des enfants. Et après, ça peut être aussi donc toute la décontamination du matériel. Quand il y a une sortie d'un enfant, il faut aller nettoyer sa chambre, il faut aller vider le matériel qui a été utilisé du patient précédent, il faut aller l'enlever pour le stériliser et le décontaminer. Une fois qu'il est dans notre bac de décontamination, il faut aller l'enlever, il faut aller le rincer, il faut le faire sécher, il faut le ranger dans la réserve. La nuit, on n'a pas de personnel qui font le nettoyage, ce qu'on appelle les ASH, donc les agents de service hospitalier. Elles ne sont pas là la nuit, donc c'est nous qui faisons le nettoyage entièrement des chambres. On va passer la serpillière, on va faire la poussière au-dessus des murs, on va nettoyer les vitres, les lavabos. C'est pour ça qu'on demande aussi dans nos revendications des ASH la nuit, parce qu'en fait, vu qu'on reste un service d'urgence, si on est dans l'urgence, passer du temps à faire ces choses-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps perdu auprès des patients. Remonter une chambre, ça prend du temps, installer le respirateur, installer les lits, faire les lits. Alors je ne parle même pas du temps qu'on doit passer pour aller chercher un lit dans tout l'hôpital, parce qu'on n'en a pas dans nos chambres. Par exemple, un enfant, on nous annonce, il a un an, il faut un lit à barreaux. Et dans nos chambres qui sont vides, des fois, on laisse des lits pour que justement, on puisse pallier à une entrée. Mais des fois, on n'a pas le lit qu'il faut. Donc, il faut aller le chercher dans l'hôpital. Mais c'est à nous d'aller le chercher. C'est-à-dire qu'on doit faire le tour de tous les couloirs s'il y a des lits qui traînent. On a une réserve au sous-sol, on doit aller au sous-sol pour chercher le lit. Tous ces temps-là font que si on est en sous-effectif et que la charge de soins est importante, c'est hyper compliqué de prioriser.
L'urgence, elle n'est pas que dans le nom du service, elle est aussi dans le fonctionnement du service.
Exactement, quoi. Et c'est pour ça que quand on n'arrête pas de nous dire qu'on est hors norme et qu'on devrait s'estimer heureux d'avoir des personnes en plus qui, des fois, ont été en insécurité parce que c'est des postes qu'on voulait nous enlever, je ne sais pas comment ils peuvent imaginer un service qui pourrait fonctionner sans ces postes-là.
Constante stable, contusion au visage, au front et à l'abdomen.
Des gants pour tout le monde.
Et à 13-9, saturation 4.
Elle a perdu connaissance, trachée médiane, aucune lésion thoracique.
Donc laisse-moi regarder ta tête.
Il lui faut un scan et un bilan traumato.
On s'en occupe, reculez.
Douleur de l'hypocondre, droit, avec défense, faites-lui un scan.
Tout le monde repart travailler, dégagez, docteur Ross, reculez.
Elle doit avoir une lésion du foie.
Oui, on le verra si c'est le cas.
Kerry, le gamin hypothermique de Carter va très mal.
Ok, Peter, tu t'en charges. Oui. Jenny, je reviens dès que je peux.
Kerry, je vais voir Carter. Restez avec Jenny.
Non, je vais voir Carter.
C'est un cas pédiatrique, Kerry. Vous êtes débordé.
Vous ne travaillez pas dans cet hôpital, pas ce soir. Alors asseyez-vous et laissez Carole examiner votre tête.
Est-ce que ce service-là, il est rentable ? Que je sais que parfois, alors, les maternités...
Notre service est un des services, je pense, moins rentable, parce que c'est un service qui coûte très très cher. Une nuit dans le service de réanimation, c'est des milliers d'euros. Donc, on n'est pas rentable et le matériel est très très cher.
Comme certaines maternités qui ont été fermées, parce que c'est pas rentable. Si on est dans une logique purement de chiffres et comptables... Tu parlais justement là, d'équipe. Je voulais savoir si la solidarité, elle se fait dans toute l'équipe, puisqu'on l'a vu, il y a plein de professions différentes interviennent. Vous êtes en lutte, mais c'est tout le monde est mobilisé.
On a la chance dans notre service, parce que je ne peux pas parler au nom des autres services, parce que je ne connais pas tous les fonctionnements des autres services. Je sais que nous, déjà, notre équipe paramédicale, donc infirmières, auxiliaires de puériculture, on est énormément soudés. Et après, on a la chance d'être énormément soutenus par nos médecins, qui est notre force, parce que clairement, si on n'avait pas tout ce soutien-là, on n'aurait pas pu faire, je pense, déjà tout ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Je pense malheureusement ils ont un poids dans l'organigramme.
Ils ont un poids, oui. Ouais. Et notre chef de service est énormément impliqué pour nous soutenir et fait énormément de rencontres avec la direction de son côté.
Non, d'autant qu'elle le voit. Et c'est ce que c'est, le travail que ça représente.
Et oui, ils sont quotidiennement avec nous, donc ils voient très bien l'épuisement de notre équipe est essentiel pour continuer.
Cette confrontation à la déshumanisation de la direction, est-ce que ça n'a pas à voir aussi un certain renoncement de l'État, voire une faillite de l'hôpital à garantir l'accès aux soins pour tout le monde? Et je pense surtout aux familles les plus précaires qui vont être davantage pénalisées. Le cœur du sujet, il est aussi ça, qu'on laisse le service public progressivement en faillite.
Oui, ça fait peur en fait. c'est quelque chose, l'hôpital, c'est justement, c'est public, donc ça veut dire que tout le monde peut y accéder. C'est pareil, par exemple, aux urgences, quand les familles se dirigent aux urgences et qu'en fait, il y a des heures et des heures d'attente, ça fait peur. Oui, mais la charge en soins, elle a augmenté. Les patients sont de plus en plus lourds, c'est une réalité. Ils prennent plus de temps, les pathologies sont beaucoup plus variées. Et nous, on est un service où on accueille vraiment toutes les pathologies. Donc ça va de la chirurgie cardiaque à la chirurgie rénale, à la greffe rénale, à la couverte de leucémie, de cancer, de lymphome. On a énormément de pathologies, je pourrais même pas les citer tellement on en a, donc on est hyper variés. On est un service repère, donc c'est vrai que si notre service est pas stable, je ne vois pas comment on peut pallier à ça. Les réanimations pédiatriques, il n'y en a pas dans tous les coins de rue, et si on n'a plus la possibilité d'accueillir tous ces patients-là, je ne vois pas comment on peut soigner ces patients.
L'alarme retentit dans les couloirs du service. Le docteur Khalil se précipite. Un enfant accidenté vient juste d'arriver.
Ne vous inquiétez pas, madame. C'est pour qu'une médecin vienne plus vite. D'accord, c'est la chance.
Qu'est-ce qu'il a, l'enfant ?
Choquée, la mère de l'enfant sort pour reprendre ses esprits.
C'était suite à une chute, c'est ça ? C'est ça, le père.
Très vite, le docteur Khalil doit découvrir l'origine du problème.
Le temps, ça... C'est précieux. Dans quelques minutes, peut sauver la vie d'un enfant.
Je pense que les gens qui écoutent, on a tous une expérience avec l'hôpital, soit positif ou pas, avec les urgences. On connaît, on sait comment ça se passe. Du côté patient-patiente, c'est bien aussi de découvrir de l'autre côté, de mieux comprendre en fait pourquoi l'attente, pourquoi la désorganisation aussi, pourquoi la prise en charge tarde. Et...
Bah déjà, en plus, les urgences, malheureusement, les gens se dirigent vers les urgences parce que y a beaucoup moins de médecins dans les campagnes et en fait forcément on repousse tout, on attend et les parents parfois viennent justement consulter parce que on est en état d'urgence, enfin que son enfant est en état d'urgence, et à laisser passer des petits appels qui auraient pu être diagnostiqués avant. Et forcément, au moment où ils arrivent, c'est déjà pas trop tard, mais forcément, ça va demander une prise en charge beaucoup plus longue.
Notre rapport envers le service public, comme tu dis, il disparaît progressivement, il est malmené, maltraité, et de plus en plus de moins bonne qualité. Donc c'est difficile pour les gens comme toi qu'on en charge de tenir tout le système. C'est vraiment difficile. Je pense qu'il y a de plus en plus de défiance.
Ça me crève le cœur de voir ces familles qui attendent des heures et des heures et qui ne comprennent pas pourquoi. J'aimerais pouvoir leur expliquer qu'un service d'urgence, ce n'est pas de gaieté de cœur de les laisser patienter pendant des heures. C'est que derrière, soit des chambres qui sont... bloqués parce que ces enfants-là ne peuvent pas être transférés dans un autre service parce qu'il n'y a pas de place. Du coup, forcément, ça va augmenter leur attente.
Il est midi. La salle d'attente des urgences est bondée. Un nouveau patient arrive toutes les 6 minutes.
Alors, on va s'installer.
Attente, anxiété des parents. Rapidement, les esprits s'échauffent. Elle rajoute encore à la pression que subit le personnel médical.
Nous, s'il n'y a pas de décision médicale, si l'enfant ne nécessite pas une ambulance, c'est ça.
Et toi, ça me rappelle aussi, pendant la crise du Covid en 2020, on a beaucoup parlé de héros, héroïnes, hospitalières, quand des... parti d'ailleurs. Finalement, il y a peu de réformes structurelles. Alors comment toi tu peux analyser la différence entre cette reconnaissance un peu médiatique et populaire ponctuelle pendant un moment et la réalité politique qui déconstruit tout ça, quoi. Il y a eu beaucoup de réformes, des changements, tu vois, des plans concernant l'hôpital.
C'est vrai que le Covid nous a mis en valeur. Alors oui, suite à ça, déjà, on a eu une prime qu'on a eue pendant un petit bout, qui nous a été supprimée par la suite, parce qu'elle était qu'au moment du Covid. Donc c'est vrai qu'on se dit, ok, on nous a applaudi tous les soirs, mais après, notre travail, il est toujours le même. Et en plus, c'est un peu... paradoxal parce que le service de pédiatrie, pendant le Covid, c'est là où il a été le plus calme, parce que les enfants ont été le moins malades, ils ont été renfermés chez eux. Et c'est le post-Covid où nous, on a cravaché parce que, en fait, les enfants ont été très coucounés pendant cette période de Covid, donc très isolés de toutes les maladies et les virus extérieurs. Et à partir du moment où on déconfine un enfant et qui est au contact de virus extérieurs, eh bien, il tombe malade. Donc nous, ça a été le post-Covid où, qui a été très dur. On a besoin d'une infirmière référente en plus pour pallier. En fait, nos infirmières référentes actuelles font énormément, énormément d'heures sup, s'épuisent totalement. Et on aimerait énormément fidéliser nos contrats précaires, donc ces CDD, ces CDI qui ont été, on en parlait du Covid, le Covid, après le Covid, parce que beaucoup de personnes sont parties en disponibilité, pour que l'hôpital puisse embaucher, ils ont montré une attractivité en embauchant les personnes en CDI, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par beaucoup de CDD, on leur a dit, vous allez commencer directement en CDI, donc c'est un moyen d'être fidélisé quand même, parce qu'on leur dit qu'elles sont en CDI. Mais par contre, ça ne change rien à la titularisation. Ils ne sont pas beaucoup privilégiés pour cette titularisation.
Si on veut vous soutenir en fait dans ce mouvement, soutenir le service, j'ai vu qu'il y avait une pétition.
Alors il y a une pétition qui est en ligne effectivement qu'on aimerait après du coup diffuser. Donc signer cette pétition en ligne. Donc on a un compte Instagram équipe Réapet31. Mmh. Donc on peut déjà nous suivre. Et suivre toutes nos revendications et tout ce qu'on fait, nos petites vidéos, tout ça. On a aussi lancé une cagnotte en ligne parce que malheureusement, moi aussi j'en ai fait les frais la semaine dernière. Il y a des loupés sur les assignations qu'on appelle, parce que quand on est en grève, on est obligé de venir travailler. On se déclare gréviste, on est obligé de recevoir en main propre une assignation qui est remise soit par nos cadres, directement si on est dans le service. Par contre, quand on est à la maison, on est obligé d'avoir notre assignation aussi en main propre. Par un huissier, donc qui est déployé pour venir nous donner notre assignation à la maison en main propre. Il y a des loupés et par exemple il y a des personnes qui ne sont pas assignées dont j'ai fait les frais vendredi soir parce que les auxiliaires étaient en nombre, il y avait à cette place, donc vu que moi j'ai été loupée, oubliée, pas assignée, donc ça veut dire que j'ai perdu une journée de salaire. On a ouvert cette cagnotte en ligne justement pour pallier, on n'a pas envie de choisir entre perdre notre salaire ou défendre nos valeurs, donc on a ouvert cette cagnotte.
Quand tu dis que tu peux pas faire grève, c'est-à-dire l'assignation t'impose de venir sur ton lieu de travail et de travailler, c'est ça? Tu dois te distinguer par quelque chose ou...
Alors non, on est donc on se déclare gréviste 48 heures en avance. Donc pour pouvoir venir travailler, il nous faut une assignation. Sinon,
c'est un document.
C'est un document, papier qu'on est obligé de signer, contresigner, qu'après qui est archivé.
Mais tu travailles.
Mais du coup, on est obligé de venir travailler vu qu'on a un service normé. On nous assigne. Ce qu'on a un peu débattu, c'est que, par exemple, nos postes qui sont transverses ne sont pas normés parce que c'est des personnes qui considèrent en plus de notre service, qui ne sont pas indispensables au service. Ils ont voulu nous enlever nos postes transverses grévistes, c'est-à-dire que les personnes qui se déclaraient grévistes sur le poste, par exemple, de l'accueil et de la logistique, ne viendraient pas travailler. Sauf qu'on leur a vraiment dit que, en fait, notre service, il ne peut pas fonctionner sans elles. Donc, ils ont décidé d'assigner qu'une seule des deux personnes sur ce poste. Ce qui veut dire que là, depuis qu'on a commencé la grève, ces deux postes sont réunis en un. Ce qui nous met quand même beaucoup en difficulté, mais ça ne changera pas le fait qu'on continuera de faire grève.
Vous avez manifesté, défilé devant l'hôpital.
Et devant l'Hôtel Dieu, le siège de la direction.
Parce que les bureaux de la direction ne sont pas...
Voilà. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, est-ce qu'ils viennent, viennent dans les services? Mais non, ceux qui sont très en haut n'ont aucune notion des services. Et malheureusement aussi, certains postes sont occupés par des personnes qui n'étaient pas en soins avant, c'est-à-dire que depuis pas très longtemps, ce sont des personnes de RH en fait, managent. Ça devient du management de l'hôpital et moins des personnels qui étaient dans les soins, dans des services qui sont devenus du coup des cadres supérieurs, tout ça, et en fait oublient le fonctionnement des services.
Cette mise à distance, juste physique, c'est une forme de déconnexion aussi.
Exactement. On tient énormément à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus parce que c'est ce qui a fait parler de nous. On a commencé par une simple vidéo qui nous tenait à cœur. On s'est dit comment on pouvait sensibiliser déjà la population. On n'a même pas demandé une augmentation de salaire. Donc je pense que ça prouve bien qu'on fait tout ça pour notre qualité de soins et pour nos patients et vraiment pas pour notre vie personnelle. C'est sûr qu'on veut améliorer nos pratiques et améliorer notre qualité de travail pour pouvoir ne pas s'épuiser et être en bonne santé aussi.
Écoute, Lucie Lafont, merci d'être venue à Canal Sud parler de ce mouvement de grève au sein du service de réanimation pédiatrique.
De l'hôpital des enfants.
De l'hôpital des enfants, bien sûr.
Merci à toi.
Ouais, à très bientôt. Et on se quitte par le témoignage, une nouvelle fois recueilli bas de la pétition. Il y a pas mal de commentaires, j'ai été les lire, et il y en avait des super touchants. On se quitte avec le témoignage de parents aussi, qui vous renvoient et de l'affection, du soutien, surtout bah voilà, qui vous félicitent pour le boulot que vous avez fait. Quoi.
Super,
merci. Merci, à très bientôt.
Au revoir.
Ouais, au revoir.
Dans ce contexte chaque jour plus fragilisé, où les moyens humains et matériels ne suivent plus, où l'épuisement devient la norme, soutenir ces équipes, c'est déjà agir. Aujourd'hui, c'est eux qu'on abandonne. Des moyens qui fondent, du personnel qui s'épuise, des cris qu'on n'entend plus, parce que ce service m'a soutenue alors que je sombrais, parce qu'ils ont accompagné ma fille avec une dignité que je n'oublierai jamais. Alors s'il vous plaît, soutenez-les. Maintenant, pas demain, quand il sera trop tard. C'est une question de reconnaissance, c'est une question de respect, c'est une question de survie. Faites du bruit pour eux, maintenant.